ce midi au Radio-Journal. Jusqu'à 20 cents de plus pour un litre d'essence.
De loin, le facteur le plus important, c'est la géopolitique. Que ce soit l'Ukraine, le Gaza ou l'Iran maintenant.
Et en Ontario, tension autour du port du Kefié, un emblème des Palestiniens. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatché. Les automobilistes de l'Ouest canadien s'en tirent mieux aujourd'hui que leurs compatriotes de l'Est du pays, qui sont confrontés à une hausse subite du prix de l'essence. En Ontario, par exemple, le prix d'ordinaire est passé d'environ 1,66 $ hier à près d'1,88 $ ce matin. Au Québec, il atteint 1,92 $ à certains endroits. Éric Plouffe va nous en dire plus. Éric, est-ce que les experts s'attendaient à cette augmentation?
À Québec, plusieurs indicateurs laissaient croire qu'il allait y avoir une hausse du coût de l'essence. Son porte-parole, Nicolas Ryan, dit que l'indicateur du coût d'acquisition, soit le prix payé par le détaillant, était déjà en forte hausse. On va l'écouter.
Donc, on pouvait s'attendre à ce que cette hausse-là, justement, du coût d'acquisition soit refilée à l'automobiliste. Ce n'est pas une industrie qui est là pour faire des cadeaux. Cependant, ce qu'il va falloir vérifier dans les prochains jours, c'est vraiment est-ce qu'il s'agit de marge disproportionnée de la part des détaillants ou c'est vraiment, justement, le coût de cette acquisition-là.
Et les conflits et tensions dans le monde sont un des facteurs qui expliquerait la forte augmentation du prix de l'essence, selon Carole Montreuil de l'Association canadienne des carburants.
Dans le conflit de Gaza, les attaques des Houthis dans la mer Rouge et la mer Arabe qui ont mis des pressions à la hausse sur le brut déjà.
Et il ajoute qu'un éventuel conflit impliquant l'Iran pourrait avoir un impact très important sur la hausse du prix de l'essence.
Merci, Éric.
Il n'y a pas de quoi.
La vente du pipeline Trans Mountain, qui devait être mise en service dans une dizaine de jours, s'annonce difficile. Le gouvernement fédéral ne souhaite pas rester propriétaire de l'oléoduc, qui permettra d'acheminer le pétrole de l'Alberta jusqu'aux côtes de la Colombie-Britannique, mais se départir d'un projet qui a coûté plus de 34 milliards de dollars relève du défi, selon le directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill, Daniel Bélan.
Garder le pipeline, c'est un risque pour les libéraux, surtout le garder jusqu'aux prochaines élections fédérales, parce que les gens qui s'intéressent à la question de la lutte contre les changements climatiques vont critiquer le gouvernement Trudeau. Pourquoi vous avez encore ce pipeline-là? Vous aviez dit que c'était temporaire. Et là, ça fait, 4 ou 5 ans que vous l'avez, même plus. Ça date de 2018, l'achat. Mais s'ils le vendent avant les prochaines élections, mais qu'ils le vendent à rabais, ben, ils vont se faire critiquer au nom de la responsabilité fiscale du gouvernement.
Au moins deux groupes qui représentent des communautés autochtones souhaitent acquérir l'oléoduc Trans Mountain. En Ontario, un des principaux emblèmes du peuple palestinien, le Kefié, est maintenant banni à Queen's Park. Les députés provinciaux ne peuvent plus porter cette pièce de vêtement en tissu noir et blanc qui se porte sur la tête avec un cordon. Cela résulte d'une nouvelle directive imposée par le président de l'Assemblée législative. Mathieu Simard est à Toronto. Mathieu, qu'est-ce qu'en pense le premier ministre?
Doug Ford n'est pas en accord avec l'interdiction. Il a même expliqué qu'il n'a rien à voir avec la décision du président de l'Assemblée législative, qu'il n'a jamais été impliqué dans les discussions qui ont mené à l'interdiction. Selon lui, c'est une décision qui divise inutilement les Ontariens. Maintenant, pourquoi cette interdiction? Bien, ça vient du fait que la députée indépendante Sarah Jama avait commencé à porter le kéfié dans les derniers mois. Sarah Jama, c'est une militante pro-palestinienne. Elle a fait de nombreuses sorties publiques pour dénoncer les actions d'Israël. Par contre, en vertu des nouvelles règles, elle ne pourra plus se présenter en chambre avec son kéfié. Je vous propose tout de suite d'écouter le premier ministre Doug Ford qui a été questionné à ce sujet ce matin.
We see the division right now that's going on. It's not healthy and this would just divide the community even more.
Alors, Doug Ford dit que cette interdiction ne ferait qu'alimenter les tensions avec les communautés juives et communautés arabes. Il ne croit pas que ce soit une bonne idée dans le contexte actuel.
Et ce matin, l'opposition officielle voulait faire renverser la décision du président. Est-ce qu'elle a réussi, Mathieu?
Ça n'a pas fonctionné. Le NPD a présenté une motion ce matin. Il voulait permettre donc le retour du kéfié. Les néo-démocrates devaient cependant obtenir le consentement unanime de la Chambre, ce qui n'a pas été le cas. Donc, l'interdiction est maintenue.
Merci, Mathieu.
Je vous en prie.
Le Manitoba planche sur la construction de deux canaux pour prévenir de nouvelles inondations majeures dans la région d'Entrelacs, à environ 130 km au nord de Winnipeg. Mais plusieurs communautés autochtones s'opposent vivement à ces projets. Delphine Young les a rencontrés.
Ils sont 5 à embarquer dans un petit avion nolisé, tous membres de différentes communautés autochtones de la région d'Entre-les-Lacs. Ils veulent pouvoir observer du ciel, là où le gouvernement souhaite construire 2 canaux censés les protéger de nouvelles inondations. Les 7 communautés regroupées au sein du conseil tribal de la région d'Entre-les-Lacs s'opposent à ce projet. Tony Travers, le chef de Kinnon Geostegon.
Les effets à long terme et à court terme ne sont pas connus. Une fois le canal construit et ouvert, on aura différentes espèces de poissons qui ne sont présentement pas dans le lac Winnipeg.
Au-delà des inquiétudes environnementales, les Autochtones de la région n'ont simplement plus confiance dans le gouvernement. Lisanne Aylor, la ministre manitobaine des Transports et des Infrastructures, assure pourtant que le gouvernement remplit sa part.
Quand je suis entrée en poste, c'était clair que le premier pas était de repartir à zéro, et c'est ce que je fais. Je rencontre des communautés impactées, j'écoute leurs préoccupations.
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada doit encore rendre ses conclusions sur le projet. Ici Delphine Young, Radio-Canada, dans la région d'Entre-les-Lacs.
Les États-Unis et le Royaume-Uni emboîtent le pas aux pays de l'Union européenne et imposent de nouvelles sanctions à l'Iran à la suite de l'attaque qui a été menée par Téhéran contre Israël en fin de semaine dernière. Les mesures punitives visent en particulier les fabricants de drones et de missiles. Et en Inde, les élections législatives s'ouvrent demain et s'étaleront sur 6 semaines. Narendra Modi, qui brigue un troisième mandat, veut positionner son pays comme un modèle de réussite économique. Pourtant, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Voici le reportage de Valérie Crova à New Delhi.
Le quartier de Gavinpuri, dans le sud de New Delhi, a vu récemment des barres d'immeubles se construire. Ici sont logées 3000 personnes qui, comme Anita, habitaient dans un bidonville.
Modi a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Je vivais dans un endroit délabré, mais Modi m'a fourni un bon logement. C'est un beau geste pour les pauvres et j'en suis heureuse.
Le premier ministre indien a-t-il eu une arrière-pensée électorale quand il a prolongé juste avant la campagne la distribution gratuite de vivres qu'il avait instauré au moment de la crise du Covid. 3 kilos de riz et 2 kilos de blé par mois et par famille, 800 millions de personnes bénéficient de cette aide alimentaire. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. C'est ce que représente pour nous le statut de l'Inde en tant que 5e économie mondiale, nous dit cette femme qui gagne sa vie comme domestique. Amit Thora travaille sur les inégalités à l'université JNU de Delhi.
1% de la population se partage environ 40% de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes plus inégalitaires qu'à l'époque britannique. La différence entre les riches et les pauvres n'était pas si grande. Aujourd'hui, c'est ahurissant. C'est la pire au monde.
En dépit du creusement des inégalités, Narendra Modi demeure étonnamment populaire parmi les plus démunis, résignés à assurer leur survie quotidienne.
C'était Valérie Crova.